Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'Alep. Bonjour Muriel.
Bonjour Corentin.
Alors, on faisait un petit cycle sur les chauves-souris. C'est la troisième et dernière, a priori, chronique aujourd'hui. Et on voulait répondre à des questions, les questions que tu allais chercher en faisant un petit peu un micro-trottoir, si on peut dire ça comme ça.
Voilà.
Et il y a eu de nombreuses questions.
Il y en a eu beaucoup, assez intéressantes, et finalement, c'est des questions qui reviennent souvent. Et donc, on peut écouter la première question.
Pourquoi les chauves-souris sucent le sang des gens ?
Mais ça, donc là, on rejoint le mythe un peu vampire, là.
Exactement. Alors, est-ce que les vampires existent ? Je sais pas.
Ils m'ont toujours fait flipper, en tout cas.
C'est vrai. Bon, alors, on va pas trop rentrer dans la question, mais pourquoi les chauves-souris sucent le sang ? Alors en fait, c'est très rare, il n'y a que 3 espèces au monde qui sucent le sang. Toutes ces espèces-là sont en Amérique latine. C'est des petites chauves-souris, hein, des microchiroptères, dont on parlait la dernière fois. Et en fait, on dit qu'elles sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles mangent du sang. C'est leur nourriture.
Principale.
C'est leur nourriture unique. Ouais. D'accord. Elles sont ultra spécialisées. Il y a d'autres chauves-souris qui mangent des fruits, d'autres qui mangent du pollen, donc qui sont importantes pour la pollinisation dans certains pays, comme les abeilles chez nous. Là-bas, les chauves-souris sont indispensables. Et celles qui sucent le sang, eh ben oui, il en existe, mais elles vont pas forcément, elles vont pas sucer du sang humain jusqu'à nous faire mourir comme la croyance des vampires.
Ouais.
En fait, c'est très spécialisé. Elles vont prendre quelques gouttes de sang chez chaque animal qu'elles vont sucer. C'est-à-dire que c'est un peu comme les moustiques. Elles vont se poser souvent sur du bétail ou des gros animaux sauvages. Mais en gros, elles se posent dessus, elles prélèvent un tout petit peu de sang. Donc en gros, ça revient à un moustique pour nous. Hein. Elles envoient un petit produit qui anesthésie, donc la bête ne le sent pas. Et elles prélèvent quelques millilitres, vraiment pas grand-chose. Et puis, donc ça affaiblit pas du tout l'animal donc, qui se fait sucer le sang. Et puis, elles s'envolent, elles passent à un autre animal. Donc vraiment comme le moustique qui pique plusieurs personnes différentes. Donc ça pose pas de problème en soi, mais le problème ça peut être qu'elles peuvent transporter des maladies, voilà, comme les moustiques.
Donc les transmettre au final entre bêtes, etc.
Voilà, c'est ça, c'est le seul souci que ça peut poser, mais en aucun cas une chauve-souris va sucer le sang d'un animal jusqu'à l'épuiser et le vider de son sang, voilà.
Et ça, on a une explication. Pourquoi justement faire des petites doses à droite à gauche plutôt que de tout pomper sur le même individu ?
C'est histoire de garder de la ressource alimentaire, quoi. Imaginons qu'on a un pommier. Est-ce qu'on va tout manger d'un coup ou est-ce qu'on en garde un peu pour le reste ? C'est un peu vicieux.
Bah ouais.
Bah non, c'est...
Ça, c'est humain.
Ben non, justement, aucun prédateur n'a jamais fait disparaître ses proies. Ben là, c'est la même histoire. Si on prélève juste ce dont on a besoin et pas partout au même endroit.
Ok, c'est vrai.
Voilà. Une autre question sur, là, cette fois-ci, c'est pas pour manger, c'est plutôt pour boire.
Comment font les chauves-souris pour boire ?
Alors, Corentin, une idée ?
Eh bien, moi, je dirais que c'est... Je sais pas, elles peuvent voler, etc. Mais j'aurais dit que c'est un petit peu comme toutes les autres. Il y a un étang ou quelque chose, une flaque. Hein, on se pose à côté, on baisse la tête et on boit.
Et on boit. Et non, raté. Une chauve-souris qui se pose va par terre risque d'être très embêtée pour redécoller. Parce qu'elles peuvent pas s'appuyer sur leurs pattes, en fait.
Il n'y a pas de prise d'élan. Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc en fait, elles se posent qu'en hauteur. Les chauves-souris, et pour redécoller, elles se jettent dans le vide. Donc pour boire, là on a un problème. Donc en fait, elles ne s'arrêtent pas, elles vont survoler l'étang ou la rivière, elles vont raser l'eau et ouvrir la bouche pour que l'eau rentre, et c'est comme ça qu'elles boivent.
Ok, ça c'est génial aussi.
C'est assez extraordinaire, ouais.
J'irai voir. J'imagine qu'il y a plein de vidéos aussi là-dessus.
Il y a des très très belles photos. Des très photos, très belles photos. Cas, ouais. Ouais. Okay. Voilà. Ouais, je vous invite à aller voir.
Ça m'intrigue.
Voilà, mais c'est aussi pour ça que à la belle saison, on peut facilement observer des chauves-souris à la tombée de la nuit au-dessus des rivières ou des étangs, parce qu'elles viennent boire et elles viennent manger les insectes, puisque chez nous, les chauves-souris sont uniquement insectivores.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est en France, enfin Europe, quoi.
Ouais, en Europe. Elles ne sont pas hématophages, elles ne sont pas frugivores. Frugivores, c'est les grandes, hein, c'est les méga-chiroptères. Mais chez nous, elles mangent énormément d'insectes, d'araignées également. Enfin voilà, donc elles nous sont très très utiles parce qu'elles mangent énormément de moustiques et d'insectes nocturnes. Donc en gros, la nuit, c'est les chauves-souris qui régulent les insectes, qui prennent le relais des grenouilles ou des oiseaux qui font ça le jour.
D'accord.
Ouais, c'est bien fait.
Et qu'est-ce qu'il faut faire si, moi, c'est un vieux souvenir qui remonte, ça m'est déjà arrivé de tomber face à une chauve-souris, mais c'était une toute petite qui était par terre, là, tombée de l'arbre, ou je sais pas trop comment, mais à un pied d'un arbre.
D'accord.
Il y a un conseil, quelque chose qu'il faudrait faire, un geste ou un...
Ouais, alors si c'est des toutes jeunes qui sont toutes nues... Alors, c'est délicat. Quand c'est en forêt, en fait, il faut mieux les remettre en hauteur.
Ouais.
Et là, les parents peuvent continuer à s'en occuper. Si c'est dans des milieux un petit peu compliqués pour elles, en ville ou dans une maison, si elles sont déjà un peu âgées, qu'elles ont des poils, qu'elles ont ouvert les yeux, qu'elles se déplacent, on peut les remettre derrière un volet, sur un muret, et elles vont voir si la journée suivante elle est toujours là. Là, il faut la garder, sinon elle va s'en aller toute seule. Et si elle est toujours là parce qu'elle est trop affaiblie, en fait, il faut la prendre, la mettre dans une boîte à chaussures, par exemple, dans un petit carton. Prendre des gants, parce que par contre, ça peut mordre fort, oui. Parce okay. que ça a des très très bonnes dents pour percer des carapaces de scarabée, par exemple.
D'accord.
Donc il faut faire attention, il faut prendre des gants. Et la mettre dans une boîte et appeler un centre de sauvegarde de la faune sauvage, qui va pouvoir la récupérer, la nourrir... et la relâcher ensuite. C'est toutes des espèces protégées, donc on n'a pas le droit de les garder chez soi.
Oui.
Et surtout, c'est très compliqué de s'en occuper.
Donc là, c'est si on se rend compte qu'elle ne repart pas d'elle-même, il faut l'amener, d'accord.
Voilà.
Super, merci.
On avait une autre question par rapport à une légende bien répandue aussi.
Bonjour, alors moi je m'appelle Anaïs et je voulais savoir, est-ce que les chauves-souris s'accrochent vraiment dans les cheveux et si elles sont vraiment aveugles ?
Alors tu l'as dit toi-même au final, légende, j'imagine que c'est pour les cheveux.
Oui, exactement. Mince, j'ai vendu la mèche. En fait, ouais, on entend beaucoup et puis ça fait partie de nombreux films d'horreur de voir la chauve-souris qui se prend dans la chevelure blonde de la blonde qui panique.
C'est ça. Souvent des blondes aussi.
Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est plutôt une grosse légende parce que les chauves-souris, alors... ne sont pas aveugles, mais n'ont pas une meilleure vue que nous. Et donc, c'est une vue qui ne suffit pas à se diriger dans la nuit noire, dans la nuit complète. Et donc, en fait, elles ont un savant système de repérage qui s'appelle l'écholocation.
Oui. Donc là, si on envoie un rayon, ça se... Enfin, je sais pas si refléter, c'est exactement le mot, mais il y a un retour.
Ouais, c'est un rebond. Et plutôt, on peut rebond, utiliser ouais. l'image D'accord. d'un rebond. En gros, c'est ça. Elles émettent des ultrasons. Comme les dauphins, comme les sonars des dauphins et des baleines. Donc elles émettent un ultrason et à l'image d'une onde, en fait, cet ultrason va rebondir contre un obstacle. L'obstacle, ça peut être un arbre, un immeuble, un insecte volant. Et le rebond va revenir à ses oreilles et en fonction de la forme, de l'intensité de ce rebond, elles vont pouvoir savoir ce que c'est comme obstacle, à quelle distance il est, dans quelle direction il va et à quelle vitesse il se déplace. Donc comme ça, elles peuvent se diriger dans leur environnement et capturer leur proie. Voilà.
Ça aussi, c'est hallucinant.
Donc ça aussi, c'est hallucinant. Et on s'est inspiré, en fait, hein, des chauves-souris et des d'autres animaux sauvages pour inventer le système du radar. Voilà. Donc,
d'accord.
Du sonar. Ouais. Donc c'est du biomimétisme, hein, on appelle ça. Mais elles ont permis d'inspirer pas mal d'inventions, notamment les premiers avions aussi, grâce à la structure de leurs ailes dont on parlait la dernière fois. Voilà.
Okay.
Donc l'écholocation, ça, c'est vraiment l'aboutissement d'un système d'adaptation à se diriger dans la nuit.
Et justement, est-ce que c'est les seuls? Parce que pour les autres, ils vont devenir nyctalopes ou se débrouiller pour voir vraiment la nuit ou avec des reflets, voilà. Mais ils arrivent à voir la nuit et eux, ils sont uniques à avoir ce système-là pour se repérer et se déplacer dans la nuit.
Dans les animaux terrestres?
Oui.
Ouais. Oui, oui. Après, il y a d'autres... par exemple, les serpents, quand ils sortent la langue, ils vont là se repérer de manière olfactive.
Ouais.
Donc c'est un autre système qui permet de pallier au manque de visibilité. Mais c'est, en tout cas, les chauves-souris, oui, sur Terre, sont les seuls à avoir mis en place ce système d'écholocation. Mais ça a permis d'inspirer aussi, ça c'est assez incroyable, c'est une école de malvoyants qui apprend aux gens à développer l'écholocation. Parce qu'en fait, c'est un don que tout le monde aurait, alors pas avec les ultrasons, hein, mais en entraînant suffisamment son ouïe, on pourrait, en fonction de la manière dont les sons résonnent, savoir dans quel environnement on se trouve. Donc, wow. En fait, il y a une personne malvoyante qui a développé ça aux États-Unis et qui arrive à se diriger à vélo dans de la circulation en émettant des claquements de langue, comme ça, et en identifiant, wow, la manière dont le son lui revient aux oreilles.
D'accord.
Voilà, c'est assez incroyable. Ils ont créé une école spécialement pour ça aux États-Unis.
Je suis
scotché.
Ouais, scotché.
Voilà, on pourra faire une émission spéciale sur le biomimétisme parce que c'est assez passionnant. Ouais,
ouais, carrément. Carrément, je suis choquée.
Et oui, voilà. Non, mais les chauves-souris, c'est assez passionnant dès qu'on s'y intéresse un petit peu. En fait, de tout temps, ça a été des animaux qui ont inspiré les humains. Il y a même une époque pendant la Seconde Guerre mondiale où les Américains voulaient en faire des armes de destruction massive, et en fait ils avaient construit des énormes tipis en bois pour les élever, et d'abord à l'origine ils récupéraient le guano, parce que le guano de chauve-souris, les crottes, c'est le meilleur engrais qu'on puisse trouver au monde. Si D'accord. vous avez des chauves-souris dans votre grenier, récupérez le guano et faut le diluer avant de le donner aux plantes, sinon c'est tellement puissant que ça crame les plantes.
Ah ouais.
Et c'est le meilleur engrais qu'on puisse trouver. Et en fait, donc, ils les élevaient là-dedans et ils ont voulu mettre en place un système pour les équiper de bombes. Et donc, ils avaient recréé un village nippon, un village japonais, et ils avaient carrément poussé l'expérimentation jusqu'à tester ça à grandeur réelle. Donc, ils avaient reconstitué un village, ils avaient équipé les chauves-souris de bombes, pour en faire des mini kamikazes, hein, qu'ils choisissent pas, mais. Et donc, ils les avaient lâchés en espérant que les chauves-souris iraient se planquer sous les lattes, sous les bouts de bois, qui faisaient l'objet des constructions là-bas. Sauf que, les chauves-souris ont pas réagi comme les militaires voulaient, heureusement, et qu'en fait, elles sont allées se planquer dans les installations militaires. Et qu'elles ont fait échouer complètement ce programme-là, qui les destinait, elles et des milliers de congénères, à bombarder des villages japonais. Voilà.
Parfait.
Mais,
très bien.
C'est assez incroyable aussi. Voilà.
Comme quoi elles sont intelligentes en plus de ça.
Voilà. Je sais pas. En tout cas, on peut les remercier. Mais si on en trouve chez soi, tu le disais par rapport à si on trouve des petits, si on trouve des colonies aussi, hein, ça peut arriver parce que l'été, en fait, elles cherchent des endroits pour mettre bas. Ouais. L'hiver, elles sont dans les grottes, on en parlait, mais l'été, elles cherchent des endroits pour mettre bas et ça peut être dans des greniers. Et souvent, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne connaît pas et ça peut faire peur, donc on a envie de s'en débarrasser. Mais on l'a dit, ça rend vraiment service. Si vous avez une colonie de chauves-souris chez vous, vous pouvez être sûr de ne pas être embêté par les moustiques. Et alors oui, ça peut créer un peu des nuisances olfactives parce qu'il peut y avoir des crottes, du coup. Mais alors, si vous mettez une bâche au sol et que vous récupérez pour faire de l'engrais, vous pouvez en diffuser autour de vous. Enfin, c'est vraiment très très riche, hein. C'est vraiment dommage de le jeter parce que c'est de l'or, quoi. Voilà, pour le potager.
Ouais, ok. Donc, faut arrêter de se mettre en guerre avec les chauves-souris.
Non, voilà, exactement. C'est pas du tout maléfique, au contraire. Voilà. Donc, si on en a chez soi, faut plutôt les bichonner et en parler autour de soi. C'est des espèces protégées, donc faire attention. Si vraiment il y a des, on sait pas quoi en faire, il faut pas hésiter à appeler l'ALEP qui donnera des conseils. Et voilà. En tout cas, c'est plutôt une richesse et d'avoir ça chez soi.
Les chauves-souris sont nos amis.
Exactement.
Et lors de la première émission, on s'était quitté un peu. Tu nous disais qu'il fallait pas réveiller une chauve-souris. On était sur hibernation. Et moi, je voulais savoir pourquoi, parce que ça avait l'air un peu dangereux.
Oui, j'avais dit que c'était dramatique. Pour la chauve-souris, c'est dramatique parce qu'en fait, on avait dit que l'hibernation, c'était vraiment une pause de tout le métabolisme. Donc la température baisse, le rythme cardiaque baisse. Donc en fait, réveiller une chauve-souris, c'est un gros traumatisme. Il va falloir qu'elle se réveille d'un seul coup de manière assez brutale. Et en fait, ça va lui entraîner une dépense énergétique incroyable. Et ça va puiser dans ses réserves de telle sorte que elle en aura peut-être plus assez pour passer l'hiver. Voilà. Donc, en fait, il faudrait, si elle se réveille, qu'elle aille recharger ses réserves en nourriture. Donc, elle mange des moustiques. Si on la réveille en plein hiver, elle n'en trouvera pas. Donc, ouais. Une chauve-souris réveillée, c'est une chauve-souris qui passera pas l'hiver et qui mourra. Voilà, c'est pour ça que c'est dramatique pour elle.
D'accord. Donc, le conseil à retenir aussi.
Exactement.
Ok, bah super. Merci beaucoup, Muriel.
De rien, à bientôt.
On se retrouve très vite. On se voit la semaine prochaine.